Salut, c'est Niléane. Violette sur les ondes, le podcast féministe intersectionnel de l'association Chez Violette, a fait l'effort d'inviter des personnes concernées pour parler de transidentité. Aujourd'hui, ces personnes concernées, c'est nous, Jenna, Pauline et moi-même. Parce qu'on a accepté avec plaisir, voici donc un épisode croisé avec les Violettes qu'on accompagne dans leur découverte de la transidentité. Bonne écoute!
Salut à toi, jeune femme, jeune fille, précoce, tardive ou en transition, mère, grand-mère ou nulle part.
Vieille sorcière, guerrière, infirmière, lesbienne, bisexuelle et hétéra, salut à toi.
La mince, la grosse, la mystique, l'anarchiste, la valide, l'handicapée.
Toi qui sais que ton corps est plein de super pouvoirs, salut à toi.
Avec toutes les nuances de ta peau, de tes origines, sociales, familiales, culturelles, avec toutes les nuances de tes idées.
Salut à toi, on t'a fait du thé. Viens.
Les Violettes sont sur les ondes. On va parler féminisme intersectionnel.
Bonjour tout le monde, vous écoutez Violette sur les ondes, le féminisme intersectionnel dans vos oreilles. Et aujourd'hui, on va parler genre et féminisme. Et pour l'émission, nous avons invité plusieurs personnes. Donc je propose qu'on commence par un petit tour pour se présenter et les inviter d'abord. Allez-y. Niléane, si tu veux.
Oui, salut, moi c'est Niléane. Je fais des trucs, je suis une militante trans. J'ai lancé un podcast récemment, c'est ce que je fais de plus notable.
Ce podcast, c'est un podcast trans et on peut le trouver sur unptc.fr.
Un PCT, du coup.
Oups.
Ah oui, oui. On a acheté aussi un podcast trans.fr, du coup, ça marche.
Ouais. Bon, peut-être il faut acheter un PTC pour être sûr.
Oui, maintenant, il faut l'acheter.
Du coup, Jenna, si vous voulez vous présenter toutes les deux.
Je m'appelle Jenna. Je suis média activiste. J'aime beaucoup ce terme que j'emprunte à Alice Coffin. Je co-anime un podcast trans avec Niléane. J'ai fondé un autre podcast qui s'appelle Nos Voix Trans, dont le premier épisode va sortir bientôt. Et voilà.
Et moi, c'est Pauline. Je fais partie aussi de l'équipe d'un podcast trans. Et c'est moi qui fais la représentation à genre, spectre asexuel et... neurodivergence, épilepsie dans le podcast.
Et donc, de l'émission de Chez Violette directement, nous avons Clara.
Salut. Non, merci déjà à l'équipe de Un Podcast Trans d'être avec nous. C'est chouette comme crossover. Et du coup, bah ouais, bonjour à toutes et à tous. Moi, je ne fais que Violette sur les ondes aussi. Je n'ai pas de multiples podcasts. Et je suis une meuf cis. Cisgenre, c'est un mot qui désigne des personnes dont un genre a été attribué à la naissance, en général homme ou femme, et qui se reconnaissent dans ce genre de naissance. Donc moi, par exemple, j'ai été assignée femme à la naissance. Je me reconnais toujours dans ce genre-là. Donc, j'ai un genre en accord avec le sexe identifié comme féminin à la naissance.
Pamela, aussi.
Bonjour, Pamela. Je fais beaucoup de bricolage. Et c'est mon premier podcast avec Violette, et tout court. Et je suis contente.
Et donc, pour finir, il y a moi, Claire, qui est déjà participé pareil à un épisode de Violette sur les ondes. Donc, je suis aussi une femme cisgenre. Pour débuter l'émission, nous allons écouter une chronique de Clara qui concerne le sexe dans le genre. Clara, c'est à toi.
Merci. Alors justement, on parle de cette question de cisgenre, transgenre, et à partir de là, voilà, je fais une petite chronique justement qui réfléchit sur les liens entre corps et genre, parce que en général, ce sont deux choses qu'on lit beaucoup, et en fait, c'est pas tout à fait le cas. Alors ce podcast, c'est censé être un podcast d'introduction au genre, parce que quand on parle des féminismes, la question du genre est assez centrale et ça me paraissait essentiel de faire un passage par le corps. Non pas que le corps puisse définir le genre ou que le genre ne s'inscrive pas dans le corps, mais le genre éclate les limites du corps, parce qu'on peut le voir aussi dans nos vêtements, dans nos goûts, dans nos attitudes, dans notre orientation romantique et sexuelle et dans bien d'autres domaines encore. Pourtant, quand on évoque la question du genre, en dissociation avec le sexe des individus, certains détracteurs coupent court à la discussion en affirmant que le genre n'est qu'une théorie. C'est ce qu'ils appellent la théorie du genre. Théorie parce que selon eux, en pratique, sexe et genre ne font qu'un. Il n'existe donc que le sexe qui nous est assigné à la naissance, fille ou garçon, et cela s'arrêterait là. De là découle la norme, être une fille ou un garçon, dès la naissance. C'est une norme qui semble étayée par la science. En SVT, on se souvient d'avoir vu des schémas avec d'un côté des organes génitaux féminins et de l'autre côté des organes génitaux étiquetés masculins. Une fille aurait donc une vulve, un vagin, des ovaires et un utérus, tandis qu'un garçon aurait un pénis et des testicules. Mais cette réalité du corps, elle n'est pas si simple. Et cette lecture du monde genré et binaire projette sur les corps des normes qui n'existent pas réellement. Voici donc quelques arguments pour faire taire les ardentes défendresses d'une séparation dite naturelle des sexes et les braves chevaliers de la binarité, chevaliers à la triste figure, pour qui la théorie du genre serait un géant à pourfendre. D'abord, l'idée d'une différenciation visible des sexes à la naissance est fausse. D'une part, parce qu'une personne peut être assignée femme ou homme à la naissance et se révéler avoir une identité différente au cours de sa vie. Femme, homme, non-binaire, c'est-à-dire ne se reconnaissant ni dans une identité féminine ni dans une identité masculine. Et d'autre part, parce que le sexe peut se révéler d'aspects très variés. Une personne peut naître avec un clitoris particulièrement développé et des testicules non descendus, par exemple, ou encore avoir un testicule et un ovaire, ou même un ovotestis, c'est-à-dire une gonade combinée, ni testicule ni ovaire, mais les deux à la fois. Ou bien encore, avoir des organes sexuels qu'on dirait d'apparence féminine ou masculine, mais une paire de chromosomes XX ou XY. Dans ce cas précis, le bouleversement de la norme du genre est invisible à l'œil nu, et donc l'observation du sexe à la naissance ne permet pas de déceler cette différence. Pour rappel, on attribue traditionnellement les chromosomes XX aux individus de sexe féminin et les chromosomes XY aux individus de sexe masculin. C'est cette différence inscrite dans l'ADN qui justifierait, entre autres, la différenciation sexuelle. On nous apprend donc dans les manuels scolaires que c'est ce double X ou ce XY qui distinguerait scientifiquement les hommes des femmes. Mais ce n'est encore une fois pas si simple. Si vous pensez que ce type de naissance est marginal, vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas tout à fait raison non plus. L'estimation du nombre d'individus concernés par l'intersexuation, c'est-à-dire dont on ne peut identifier les organes génitaux comme féminins ou masculins à la naissance, s'élève à 1,7%. Comme les chiffres sont assez abstraits, pour vous donner une idée plus concrète, si vous allez au cinéma et que la salle est remplie par 200 personnes, il y a statistiquement 3 ou 4 personnes intersexuées qui regardent le film avec vous. Et pour vous donner une idée encore plus large, à Lille, qui est une ville d'environ 235 000 habitants, statistiquement, on devrait compter près de 4 000 personnes intersexuées. D'ailleurs, la plupart l'ignorent, parce qu'il est de rigueur depuis l'après-guerre de, entre guillemets, réparer ses enfants dès la naissance, afin que leur sexe ressemble physiquement au genre qu'on leur assigne à la naissance. Ainsi, un pénis considéré comme trop court, alors selon la science, trop court, c'est moins de 2,5 cm, ou un clitoris estimé trop long, toujours selon les normes scientifiques, trop long pour un clitoris, c'est plus d'un centimètre, peuvent donner lieu à une opération chirurgicale. En tous les cas, ces opérations sont faites sans le consentement de l'enfant, qui est encore bébé à ce moment-là, avec cependant l'accord des parents, mais qui doivent faire face à ce moment-là, à une situation sur laquelle ils manquent souvent de renseignements, et du coup, ils font logiquement confiance au corps médical. Pourtant, la plupart du temps, ces opérations ne sont pas motivées par des raisons de santé, mais par des arguments se rattachant à la norme. Votre enfant doit avoir un genre clair et fixe, sans quoi il risque de subir un désordre psychique et un handicap social. Alors, je prends le temps de parler de ces situations d'intersexuation pour montrer à quel point la volonté d'inscrire l'humanité dans ces deux cases, femmes et hommes, peut avoir des conséquences réelles sur les corps. On se rend donc bien compte que naturellement, le sexe ne donne pas une idée claire du genre du bébé et donc de l'individu à venir également. On va donc artificiellement par la chirurgie venir, entre guillemets, corriger la nature pour qu'elle respecte la dualité des sexes qui apparaît alors comme artificielle. Alors, c'est juste un effleurement hein, de ces idées reçues sur les corps, mais on voit bien à travers ces exemples-là qu'on cherche à justifier scientifiquement cette dualité des sexes, mais que si on s'en tient à une démarche absolument scientifique et objective, il faut admettre qu'il n'y a pas tellement de sexes, mais plutôt un continuum sexuel comprenant d'infinies variations anatomiques. Et il faut aussi et surtout admettre que le genre dépasse les limites du corps, que ce n'est pas un moule dans lequel on peut couler une vision binaire du monde. Ça éviterait par exemple des opérations chirurgicales que je mentionnais plus haut et qui sont considérées aujourd'hui par l'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres instances comme des mutilations sexuelles. Et la France s'est faite retoquer plusieurs fois sur ces pratiques. Mais ça éviterait aussi des discriminations transphobes. Le corps, et il faut bien le dire et le comprendre, le corps ne suffit pas à définir le genre. Et pour celles et ceux qui craignent encore le déséquilibre psychique que pourrait engendrer l'idée d'une dissociation entre sexe et genre, je vais vous lire un petit extrait d'un livre que vous avez peut-être lu et qui s'appelle « Je suis un monstre qui vous parle » de Paul B. Preciado, un philosophe qui affirme à travers sa transidentité que les corps sont politiques. Dans cet ouvrage, il parle de son identité qui ne manque ni d'équilibre, ni de beauté. Je cite. Contrairement à ce que la médecine ou la psychiatrie croit et préconise, je n'ai pas complètement cessé d'être Béatrice pour ne devenir que Paul. Mon corps vivant, je ne dirais pas mon inconscient ou ma conscience, mais mon corps vivant, qui englobe tout dans sa mutation constante et ses multiples évolutions, est comme une ville grecque, où coexistent avec des différences, des niveaux énergétiques, des bâtiments trans contemporains, une architecture lesbienne postmoderne et de belles maisons art déco. Mais aussi des vieilles bâtisses champêtres sous les formations desquelles subsistent des ruines classiques animales ou végétales, des fondations minérales et chimiques volontiers invisibles. Merci Paul B. Preciado et merci à vous de m'avoir écouté.
Eh bien, merci à toi de nous avoir livré ce texte. Pour aller plus loin sur la question des droits des personnes intersexes, on peut vous renvoyer au travail du collectif Intersexes et Alliés.
Il y a Logis, qui est une association un peu plus universitaire, mais qui travaille sur l'altérité des corps, sur le droit des personnes intersexes. Et il y a l'association Alter Corpus aussi. Et puis il y a aussi des associations d'usagers qui ont notamment des différences hormonales. Alors j'ai plus le nom en tête et j'ai peur de dire une bêtise, mais voilà, il y en a d'autres.
J'ai découvert en t'entendant Clara que en France, théorie du genre, c'était un terme péjoratif qui exprimait le fait de penser que le corps devait forcément, enfin qu'il y avait une binarité et que le corps devait forcément refléter l'expression. Enfin, c'est pas du tout comme ça que moi je le comprends, parce que l'expression anglaise, en fait, c'est la part de sociologie qui explique comment le genre se construit en dehors du corps.
C'est les gender studies, c'est ça auquel tu fais
allusion ? Ça a donné les gender studies, en fait, mais gender theory, c'est le principe, c'est la base de « Ok, le corps, c'est quelque chose, mais en fait, le genre, c'est pas ça. Le genre, c'est des constructions sociales, c'est du comportement, c'est... Enfin... » Donc, en fait, les Français, ils ont décidé de faire l'inverse.
C'est pas... Je dirais pas les Français, je dirais qu'il y a un dévoiement du terme de gender theory par les personnes qui critiquent le principe de genre en s'attachant à l'idée que c'est une théorie, en oubliant que la théorie de la gravité, elle a été vérifiée, que quand on la critique, on ne tombe pas au plafond. Mais il y a aussi autre chose que les critiques du principe de genre font quand ils en parlent en France, c'est qu'ils en parlent en anglais, en critiquant la théorie du gender, en soulignant que c'est une théorie importée qui ne devrait pas avoir lieu ici. Mais non, c'est super intéressant. C'est que c'est censé être un mot neutre que d'employer théorie, mais c'est devenu une connotation négative. J'ai noté d'autres trucs sur la chronique. Quand on dit que la France s'est fait retoquer sur les questions intersexes, c'était des condamnations, en fait. Autre chose, c'est plusieurs fois dans la chronique, il était fait référence à des sexes masculins et féminins. Et la façon dont moi je le perçois, c'est que masculin et féminin réfèrent au genre et pas au sexe. et que le sexe devrait être utilisé mâle et femelle. Il y a quelque chose qui m'est venu pendant la chronique auquel je n'avais pas pensé du tout. C'est que le fait de rentrer les gens absolument dans des cases, ça n'est pas une norme légale, ça n'est pas dans la loi, ça n'est pas dans la Constitution. Et pourtant, alors j'ai peur de dire une bêtise, et je ne sais plus si c'est le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, mais une des deux grandes instances juridiques en France ont déclaré dans les derniers mois qu'une personne qui a poursuivi pour ne pas avoir de mention de genre à l'état civil parce qu'elle était intersexe, la Cour a reconnu qu'il était acceptable de penser que cette personne n'avait pas de sexe masculin ou féminin parce que c'est l'état de sa biologie, et que pour autant l'état civil ne pouvait pas s'aligner parce que la binarité sexuelle était la pierre angulaire du droit français. Et du coup, ça veut dire que la binarité sexuelle a été déclarée inscrite récemment comme une norme supralégale qui n'est pourtant pas dans le bloc de constitution, non ? Pardon, dans le bloc de constitution, c'est-à-dire ni dans la constitution, ni dans les textes auxquels se réfère la constitution, mais que c'est pourtant une norme à laquelle on ne peut pas déroger en France. À l'issue du texte de Paul Preciado, il y a quelque chose qui m'est venu, à laquelle j'avais jamais pensé, qui est on essaye d'épargner les enfants intersexes la douleur sociale d'avoir un corps différent de leur genre. Et ça souligne à quel point, du point de vue de ces personnes-là, le fait d'être trans est la pire chose qui puisse arriver à un enfant. Alors que si on organisait mieux la vie des personnes trans, si on respectait plus les personnes trans, ce serait pas horrible.
Ce serait pas négatif.
Exactement. Voilà.
Toute l'utilité d'avoir des invités qui ont un point de vue différent du nôtre.
De concerner.
Aussi, oui. Évidemment.
Épisode croisé. Un podcast trans rencontre les violettes sur les ondes.
Donc on peut enchaîner sur la roue de la fortune.
Donc j'avais noté plein de trucs dans la roue. Cis ou transidentité.
Alors, indice, il y en a un des deux qui est mieux.
Et c'est pas celui qu'on croit.
De toute façon, la cis-identité, c'est totalement un impensé. Autant on en parle de plus en plus à transidentité, autant la cis-identité...
L'identité cis, ce sont les personnes qui se reconnaissent, qui vivent encore le genre qui leur a été imposé à la naissance. Les personnes trans sont les personnes qui vivent ou voudraient vivre un autre genre. Et j'essaie d'ouvrir ça, c'est-à-dire, il n'est pas question de réserver la transidentité à des personnes qui ont déjà fait une transition, par exemple. Parce qu'il y a quantité de personnes qui a soit qui ont subi, soit qui ont, de leur plein gré, travaillé sur le fait d'accepter des éléments qui leur ont été imposés et vivre avec. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont cis pour autant, parce que cette dysphorie, c'est-à-dire le fait de ne pas bien vivre des éléments qui ont été imposés, que ce soit par la société ou par la nature, elle est toujours là, en fait.
Voilà. Est-ce qu'on mentionne le fait qu'il y ait des termes différents, genre transgenre, transsexuel ?
Ouais.
Oui.
Oui, oui.
Bien, justement, vas-y.
Vas-y.
transsexuel, la transsexualité aussi, c'est des termes qui s'utilisent de moins en moins, que les concernés utilisent de moins en moins. Mais qui sont toujours réappropriés par des concernés, donc du coup ça se vaut, il faut le respecter. Pourquoi ça, mais ce qui peut être intéressant de dire, c'est pourquoi ça s'utilise de moins en moins, parce que du coup il y a une association avec avec tout l'historique de psychiatrisation des personnes trans. Et ça permet d'enchaîner. Donc là, je ne vais pas trop creuser pour l'instant, mais j'enchaîne du coup sur le fait qu'on peut dire personne trans. Ça, c'est une nouvelle formulation qui est très bien élégante se limite au préfixe très essentiel de la transidentité. Juste, on est trans et ça veut tout dire. Et ça peut vouloir tout dire. Du coup, Jenna, tu cherchais de l'ouverture. Je pense que ça, c'est un exemple d'ouverture dans la nomenclature. Mmh. Voilà.
J'ai l'impression que le rejet du terme transsexuel et encore plus du terme transsexualisme est assez général. C'est-à-dire dans les... je pense à Julia Serrano et les activistes américains, américaines. Les quelques activistes britanniques que je connais et qui survivent le climat de transphobie là-bas en ce moment, n'utilisent transsexuel que dans un sens très précis qui est pour parler de ou d'elle-même et dans une distinction que certaines personnes n'aiment pas mais que je trouve il faut respecter, qui est que transsexuel ne devrait désigner que des personnes qui veulent ou qui sont passées par une chirurgie de modification génitale. Et donc, il existe cette distinction-là pour certaines personnes qui veulent utiliser ce terme-là. Mais finalement, c'est une minorité parce qu'il y a une minorité de personnes trans qui passent par des opérations génitales. Mmh. Et dans cette minorité, il y a une minorité qui veulent utiliser le terme trans.
Finalement, c'est un peu un terme médicalisant, non ?
C'est ça, oui.
C'était un terme médical au départ. Le fait de vouloir remettre un sens positif à un terme médical, c'est quelque chose qui est politique et qu'il faut respecter.
Il faut savoir aussi que le climat là-bas est très particulier et que la transphobie est très ambiante et donc aussi très internalisée pour beaucoup de monde. Parce que, en France, c'est déjà pas cool, mais alors le Royaume-Uni...
Ouais, c'est pire.
Pour l'ambiance, on a la chance en France d'avoir sur 800 parlementaires, 3 ou 4 qui ont le courage de prendre la parole pour défendre les personnes trans. Mmh. C'est un tout petit pourcentage, mais on va dire les autres sont ou neutres, légèrement négatifs, mais en général, ils n'en parlent même pas parce qu'on n'existe pas. Mmh. Au Royaume-Uni, ce pourcentage est inversé, où il y a la minorité de parlementaires qui parlent des personnes trans en parle de manière extrêmement négative, propose des lois pour supprimer des droits. Donc
le climat de chaque pays est...
La barre est basse, mais on est plutôt bien loti.
Est-ce qu'on relance la roue de la fortune pour découvrir un nouveau mot ?
Non-binarité.
Ce sera une définition très personnelle parce que, comme chaque personne non-binaire, j'ai une vue très personnelle de ce que ça représente pour moi. Donc, je ne parle pas pour toutes les personnes non-binaires. Préambule. Et donc, pour moi, la non-binarité, c'est une identité de genre qui ne tombe pas dans les deux cases dont on a l'habitude, qui sont hommes et femmes. Et donc, ça recouvre tout le reste, parce que l'identité de genre est un spectre. Et donc, c'est extrêmement vaste, la non-binarité. Là où c'est drôle, c'est que on peut mettre aussi dans la non-binarité des identités de genre qui sont, comme la mienne, à genre, c'est-à-dire pas de genre. Donc, je ne sais même pas si c'est un spectre, là, on pourrait dire que c'est une étendue cosmique ou un truc comme ça. Enfin, c'est très succinct parce que s'il faut que j'explique après tous les genres non binaires, on ne va pas s'en sortir, on est encore là dans 3 jours. Dans la société actuelle, on n'a pas beaucoup de représentations de personnes non binaires et du coup, on a surtout un cliché qui existe de il faut absolument avoir une présentation androgyne si on doit être non binaire. Et c'est faux! Voilà, je le dis pour au cas où il y a des gens qui se posent des questions et mais je n'arriverai jamais à être androgyne. On n'est pas obligé d'être androgyne si on est non-binaire.
Et de façon générale, en fait, pour avoir un genre, il n'y a absolument aucun impératif de présenter d'une certaine manière ou d'une autre.
Tout à fait. Et finalement, par exemple, pour la présentation, pour tout ce qui est vêtements et choses comme ça, j'avais entendu un jour une lesbienne dire que elle rejetait le fait qu'on dise qu'un dildo, par exemple, ça avait la forme d'un sexe masculin, parce que voilà, et tout. Elle disait non, ça a la forme de l'intérieur de où je le mets. Donc c'est défini par rapport à moi. C'est pareil pour les vêtements. Les vêtements, si vous avez un souci avec « oui, mais si je mets ce vêtement-là, il vient du rayon homme ou il vient du rayon femme, est-ce que je suis vraiment non-binaire ?» Le vêtement, il est fait pour votre corps. Et votre corps est non-binaire. Donc le vêtement est maintenant non-binaire.
J'ai que deux exemples de personnes publiques non-binaires et qui ne sont pas particulièrement androgynes. J'ai Sam Smith et Miley Cyrus.
Billie Dee Williams.
Oui.
Oui, exact.
Ezra Miller.
Il me semble que c'était en tout cas un sujet qui avait été abordé lors d'une interview.
D'accord. Influence de l'orientation sur le genre perçu.
Orientation romantique et sexuelle, ça ?
Oui, c'est ça.
C'était ça l'idée. Quand on se définit par exemple comme hétérosexuel, ça signifie que on est attiré par le désir et par les émotions, et ou par les émotions, par une personne qu'on considère du sexe opposé et du genre opposé. Et donc ça veut dire qu'on se définit soi-même, mettons comme femme cisgenre, si je prends... mon exemple. Et donc si on imagine que j'ai une attirance vis-à-vis de personnes que j'envisage de sexe et de genre masculin, je peux me définir comme hétérosexuelle. Ou bien toujours je suis une femme cisgenre et je ressens une attirance romantique et sexuelle pour une personne que j'identifie comme du même genre que le mien, et à ce moment-là je me définirai comme lesbienne.
Bisexualité, c'est ton genre et tous les autres genres, mais avec des variations d'attirance suivant... t'es pas attiré de tout le monde de la même façon, en opposition à pansexuel, qu'on définit souvent comme tomber amoureuse de la personne et pas du corps, où tu considères absolument exactement tout le monde de la même façon. Je vois, Jenna, que t'as des choses à dire, donc vas-y.
La façon dont moi je vis ces définitions-là, puisqu'on a établi que c'était des définitions personnelles, je suis d'accord sur la définition de la pansexualité précisément. C'est donc pouvoir être attiré par des personnes indépendamment de leur genre. Ça n'empêche pas de pouvoir être attiré un peu plus par un genre ou une présentation qu'un autre, en fait. Et pour finir de dégoupiller l'idée que les personnes bisexuelles sont binaire et attiré que par les hommes ou par les femmes, et que ça induit une binarité. Par exemple, moi, si je suis bilingue et je parle anglais et français, ça n'empêche pas qu'il y a plein de gens qui parlent plein d'autres langues. Et le fait que je sois bilingue n'implique pas qu'il n'existe que deux langues. Voilà.
En fait, je demandais si, là, la question qu'on posait, maintenant qu'on a un petit peu présenté les définitions, est-ce que la question qu'on pose, c'est est-ce que l'orientation sexuelle et romantique influe sur la représentation genrée dans la société ? C'est ça, je comprends bien la question.
C'était la raison pour laquelle on l'a mis sur la roue, en tout cas.
Ouais. Ok. Alors, oui !
La question suivante.
Non.
La question, elle est vite répondue.
Quand on se promène dans la rue, les gens, ils ont très envie de dire que c'est un couple hétéro. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une personne qui soit une femme et une personne qui soit un homme, quelle que soit la manière dont on se présente physiquement.
Ça me fait penser à ce strip d'Alex Norris qui a beaucoup percé, plus que les autres strips d'Alex Norris, où on voit deux personnes qui sont nues, et du coup on voit leur partie génitale, et puis t'as un troisième personnage qui leur dit « Il faut que vous portiez des vêtements pour cacher vos parties génitales. » Du coup, la case d'après, ces deux personnes ont des vêtements, et la troisième le troisième personnage leur dit « Non, non, mais je... non, non, il faut que vos vêtements... on puisse deviner vos parties génitales. » Et donc, la troisième case, c'est... en fait, quand les gens vous regardent, il faut vraiment qu'ils puissent deviner vos parties génitales. Évidemment, les deux personnages répondent « Oh, no. »
Je crois qu'une des raisons pour laquelle la proposition avait été inscrite sur la roue, c'était parce que... pour prendre l'exemple de si on voit un homme efféminé, on va supposer son orientation en supposant que cet homme est homosexuel. Et alors qu'on va continuer à souligner qu'il n'y a pas de lien logique évident entre l'orientation et la représentation de la perception du genre d'une personne et ou la façon dont elle s'habille.
Dernier tirage.
Performance de genre.
Ah bah, on était dedans.
Ouais.
Bon bah c'est ça.
Non, on a évoqué le sujet sur les autres sujets finalement. Oui.
C'est ça. Magnifique. Il y a éventuellement le mot queer, ça peut être... important de l'expliquer dans ce podcast.
Dans ce contexte.
Ouais.
Je trouve que Niléa n'a pas beaucoup parlé.
Ouais. Moi, tout ce que je sais sur ce mot, c'est pas grand-chose. Par contre, je sais que c'est un bien bel exemple de réappropriation qui s'est étendue, mais à un point, on ne voit pas ça souvent. Ouais. Parce que si le terme, on a dit plutôt transsexuel, est réapproprié parfois, c'est pas du tout à la même échelle.
Ça reste minoritaire.
Ouais, et je crois connaître beaucoup de personnes qui vont utiliser le terme de queer sans même savoir, désormais on est à cette étape-là, sans même savoir qu'il y a une backstory de réappropriation. Du coup, queer, peut-être un terme qui à la base s'associait à la notion de déviance ou d'anormalité. Donc, c'était une insulte, c'est toujours une insulte, parfois. Ouais. Et aujourd'hui, on va s'en servir dans nos cercles pour avoir un terme un peu parapluie assez large. Donc voilà, après donc il y a des définitions plus personnelles, je pense, mais globalement, on va retenir ça, je pense.
Une définition que j'ai entendue est que queer rassemble toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans la cis-identité ou l'hétérosexualité.
C'est à peu près la définition que j'en avais aussi. Ça fait un peu un terme parapluie pour éviter d'égrener toutes les lettres du sigle LGBT, avec toujours le risque d'en oublier évidemment, parce que...
LGBT plus.
Bah voilà, c'est ça.
L'état actuel de l'acronyme en France, la version complète que je vois la plus utilisée, c'est LGBTQIA+.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'il y a une lettre dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est A. Mais je trouve assez intéressant de voir en creux ce qui est intéressant pour les gens qui n'utilisent pas l'acronyme complet. On peut dire qu'il y a une majorité de personnes cis-hétéro qui vont utiliser LGBT parce que c'est historiquement l'acronyme le plus connu. Mais il y a certaines personnes qui vont dire juste LGBTQ par exemple, ou LGBTI par exemple, ou LGBTIA.
C'est intéressant,
intéressant de voir ce qui saute.
Ouais.
Et d'essayer d'interroger pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des queers, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des intersexes, ou pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des asexuels.
Donc je propose maintenant qu'on fasse une petite pause musicale.
On veut des femmes qui disent ce qu'elles pensent, mais pas trop souvent ni trop fort. On veut des femmes qui savent ce qu'elles veulent, mais c'est mieux quand elles sont d'accord. On veut des femmes qui aiment les hommes, mais surtout pas trop à la fois. On veut des femmes qui aiment les femmes, seulement devant la caméra. On veut des femmes indépendantes, mais qui demandent la permission. On veut des femmes intelligentes, mais demandent des explications. J'entends tout.
Femme de Mrs. Gaillet.
C'était vachement bien.
T'as vu, hein?
Ça remue beaucoup.
Je vais un peu maintenant vous parler de la place surtout des personnes transgenres dans le féminisme, parce qu'il y a des choses à dire. Et que bah, on est quand même un podcast centré sur le féminisme, donc ça me paraît être le lieu. Donc pour commencer, ça fait assez peu de temps en fait que la question de l'inclusion des personnes trans pose question dans le féminisme, parce qu'en fait avant les années 70, la transidentité en fait c'était un impensé, le terme trans n'existait pas et du coup le grand public et même les féminismes n'en parlaient juste pas, et du coup quand le problème se posait un peu au cas par cas, il n'y avait pas de problème pour les inclure dans le féminisme. Maintenant, je pense que vous avez entendu parler de ce genre de débat. Et une possible explication, c'est que, en fait, avant, il y avait peu de personnes trans qui étaient out. Leur présence était carrément invisibilisée. Et en fait, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui vivent leur transidentité au grand jour, on peut dire. Et ça donne un peu une impression de... entre guillemets, phénomène de mode qui... C'est pas un phénomène de mode, clairement pas, mais ça donne un peu cette impression, et on peut peut-être expliquer le rejet, enfin expliquer, ce n'est pas une excuse, hein, mais une potentielle origine de ce rejet des personnes trans. Et pour parler un peu des féministes qui rejettent les personnes trans, donc on n'a pas vraiment de terme en français pour ça, en général on utilise un terme anglais qui est l'acronyme TERF pour... alors attention à mon accent magnifique en anglais, Trans Exclusionary Radical Feminist, des féministes radicales excluant les personnes trans. Et il y en a un deuxième qui en vrai est pas très utilisé, mais moi que j'aime bien, qui est l'acronyme FART, en fait ça veut dire prout en anglais, c'est pour ça que j'aime bien, qui veut dire Feminism Appropriating Reactionary Transphobes. Donc ça veut dire en français les transphobes réactionnaires s'appropriant le féminisme. Donc, en plus, celui-là, le deuxième acronyme qui est moins utilisé, est bien parce que ça montre vraiment une appropriation des luttes féministes et rejette un peu les rejettes du féminisme. Et le problème avec les TERF, c'est que malheureusement, la plupart des associations féministes qui ont de la visibilité en France sont souvent, même quasiment tout le temps, malheureusement, transphobes. Le MLF, Nous Toutes, le Salon des Dames, qui est une association qui a pas mal de visibilité aussi. Ce genre d'association qui dénie la place des personnes trans parce qu'elle les accuse d'être des hommes infiltrés dans le féminisme, ce genre de rhétorique. Donc c'est pas brillant comme situation. Et en fait, à l'étranger, on voit que les TERF ont encore plus d'impact. Donc ça... merci à Jenna qui nous en a parlé pendant les réunions de préparation. parce que, en fait, on parlait tout à l'heure de la transphobie au Royaume-Uni. Et en fait, là-bas, les TERF ont un vrai impact sur la vie des personnes trans parce qu'elles font de l'activisme politique. Et en rendant la transphobie acceptable, elles rendent justement acceptable le fait de passer des lois contre les droits des personnes trans. Donc un exemple dont vous avez sans doute entendu parler, c'est la magnifique tribune ou slash manifeste de J.K. Rowling l'an dernier. L'autrice d'Harry Potter qui étalait sa transphobie au grand jour comme ça, et une des conséquences, pas directement de juste elle, mais de tout le climat ambiant du rejet des personnes trans dans le féminisme là-bas, c'est que dernièrement, en décembre je crois, il y a un tribunal qui a décidé d'interdire les hormonothérapies aux moins de 16 ans, en alléguant qu'en fait, à cet âge-là, c'est une question de consentement, on ne peut pas vraiment donner son consentement. Le problème, c'est que les hormonothérapies à cet âge, c'est surtout des bloqueurs d'hormones qui arrêtent ou ralentissent la puberté, pour plus tard, justement, permettre à la personne de décider sans avoir à subir une transition hormonale très lourde, en fait. Et du coup, il y a des jeunes qui voient carrément leur traitement s'arrêter net, et d'autres qui étaient, par exemple, sur liste d'attente pour avoir une hormonothérapie depuis très très longtemps, qui sont juste retirés des listes. Et voilà, ça a des conséquences vraiment. Le féminisme qui exclut les personnes trans a des vraies conséquences sur la vie des personnes trans. Heureusement, en France, on a ce genre de débat aussi, mais il y a beaucoup moins d'impact. Donc par exemple, on a eu notre propre débat transphobe l'an dernier avec le mouvement des colleuses, qui avait été prétendument fondé par Marguerite Stern, donc qui est une féministe transphobe, qui s'est indignée justement que de voir fleurir des collages pour les droits des personnes trans. Et le problème, c'est que on donne beaucoup de visibilité à ces féministes transphobes, alors que dans les faits, c'est pas la majorité des féministes de France. Et par exemple, toujours pour continuer l'exemple du mouvement des collages, la grosse majorité des colleuses se sont totalement désolidarisées de Marguerite Stern en réfutant totalement sa rhétorique et en disant qu'elle ne... pour elle, le mouvement des collages, c'était pas ça. Et donc tout ça pour finir par dire que c'est à mon avis important, en tant qu'allié en tout cas, de ne pas soutenir ce genre de féminisme, sous prétexte que on est déjà contente d'avoir des féministes qui sont visibles à des heures de grande écoute ou ce genre de choses. Pour moi, le féminisme ne devrait pas se faire parce que c'est le moins pire et le mieux qu'on arrive à avoir, même si c'est au détriment des droits d'autres personnes. Voilà.
Peut-être juste préciser,
vas-y, vas-y.
En termes de, pour la, par rapport à la situation au Royaume-Uni, pour les jeunes trans, si vous voulez facilement vous tenir au courant de la situation, parce que bon, ça évolue un peu beaucoup en ce moment, il y a une asso nationale au Royaume-Uni qui est vraiment très 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 cool et qui bosse d'arrache-pied, qui s'appelle Mermaids. Mermaids comme des sirènes, et du coup c'est Mermaids. Le site, je sais pas c'est quoi l'URL exactement, mermaidsuk.org.uk. Et donc sur Twitter également, leur compte Twitter est très actif. Et du coup, voilà, juste petite astuce pour se tenir au courant de la situation là-bas.
J'aime bien que tu aies souligné l'acronyme FART. parce que il souligne vraiment quelque chose qui est, ce sont des transphobes qui essayent de s'approprier le terme de féminisme et qui essayent de redéfinir le terme de féminisme. Et pour moi, il y a un des slogans féministes qui m'a marqué depuis tôt dans ma vie politique, c'est « Ne me libérez pas, je m'en charge ». Et ça veut dire, la façon dont je le comprends pour moi, c'est il n'est pas question de libérer des gens contre leur gré. Et par exemple, on ne va pas arracher le voile des femmes qui veulent porter le voile. Et là, ces pseudo-féministes luttent pour imposer des pubertés à des enfants qui ne veulent pas de ces pubertés-là. Mmh. Et on est vraiment à l'opposé du féminisme.
Voilà, pour finir, c'était juste impliquer des personnes trans quand vous faites des campagnes, des supports, des initiatives et...
Des podcasts.
Des podcasts, voilà.
En conclusion, les personnes trans sont allouées, louez-nous. Voilà. Comme ça, d'argent.
En plus, ça donne de l'argent aux personnes trans qui sont encore plus précarisées que les femmes de base. Donc,
on vous fait un devis, quand vous voulez.
En résumé, c'est surtout, petit A, les TERF ne sont pas des féministes. Et petit B, incluez les personnes trans dans vos mouvements. Voilà, c'est tout pour moi.
Épisode croisé, un podcast trans rencontre les violettes sur les ondes.
Donc, maintenant que j'ai assez parlé, on va laisser Pamela nous parler cinéma et documentaire. Oui. Si tu veux bien, Pamela.
Donc, on va évoquer avec vous deux films, enfin deux documentaires. En tout cas, ils se revendiquent comme documentaires tous les deux. C'est Petite Fille et Disclosure. Petite Fille qui est une histoire qui est présentée comme un documentaire et où on suit la vie de Sacha, donc une enfant transgenre de 8 ans, et le combat de sa mère pour la faire accepter, enfin pour faire accepter son identité fille à l'école. Et Disclosure, donc c'est un documentaire qui présente des témoignages de personnes trans et comment il et elle ressentent l'image des trans dans les médias, et comment il et elle sont dépeintes dans les médias, et comment il et elle nous poussent à prendre du recul dessus, un regard critique dessus, en fait. En tant que personne non concernée, du coup, donc avec un regard vraiment extérieur à la chose. Dans le documentaire Petite Fille, j'ai bien aimé que les parents se battent pour le bien-être de leur enfant, que la parole de l'enfant soit valorisée, donc dans un principe d'autodétermination. Poser aussi les limites de l'école sur la considération des personnes trans. Les choses que j'ai pas trop aimées, c'est que j'ai trouvé que c'était assez drama et qu'il y avait beaucoup de mises en échec et que je pensais que ça pouvait être vécu comme découragement pour les personnes concernées. J'avais le ressenti assez négatif finalement, quoi. Sur Disclosure, les choses positives que j'avais repérées, c'était que qu'il levait le voile en fait sur le vrai problème, qui est en fait la perception des personnes cis, des personnes trans. Et donc sur les points positifs, j'avais aussi le fait que ce soit des vrais témoignages de personnes concernées, que ce soit pas joué en fait, quoi. C'était vraiment leur ressenti. Et du coup, on arrive vraiment à comprendre avec les émotions, vous voyez ce que je veux dire, ce qui se passe, même si on le vit pas en fait. Et aussi, j'ai pris conscience de problèmes comme le fait qu'il y ait peu de représentation dans les médias, dans l'immense majorité, des cas, donc les personnes trans sont dépeintes négativement et traitées avec beaucoup de violence psychologique ou physique. Et un chiffre aussi qui est assez intéressant, c'est que 80% des personnes n'ont jamais vu une personne trans en vrai, qui n'ont jamais côtoyé de personnes trans en vrai.
Sachant que ça, c'est un chiffre, du coup, c'est un documentaire états-unien, donc c'est un chiffre qui est valable pour les États-Unis. Mais on peut supposer que c'est pas très loin de ça en France non plus, en fait.
Là-dessus, la notion clé par rapport à ce chiffre des 80%, c'est que c'est vraiment pour dire que cette représentation des personnes trans au cinéma, à la télé, sur les écrans de manière générale, en fait, c'est la seule interaction que les personnes cis vont avoir avec la notion de trans, de loin, vaguement. Et donc, c'est pour ça que c'est très grave et que c'est important, cette question de représentation. Et sinon, pour les deux films, pour Petite Fille, donc réalisé par Sébastien Lifshitz, qui a un historique de réalisation sur le sujet, Petite Fille, c'est un peu... ça pourrait être pire, mais c'est vraiment à la surface de ce qu'on aimerait avoir, mais vraiment à la toute surface. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites sur l'histoire de cette jeune fille, mais qui ne sont pas là et qui ne sont même pas prêts d'être là. On n'y est même pas à deux doigts. Notamment, il y a ce conflit avec l'école qui refuse de reconnaître de manière générale la petite fille trans. Et on est, comme tu l'as dit, on n'est que dans la mise en échec, on n'est que dans le constat de la situation très très gênante pour la famille entière. Sauf que il y a aucun propos de la part du documentaire lui-même, du documentaire entre guillemets, parce que du coup, moi, je suis d'accord pour dire que ça n'en est pas tellement un. Le terme mériterait mieux que ça. D'avoir des films sous son parapluie, il mériterait mieux. Donc ça, c'est pour Petite Fille. Après, bon, j'ai des choses positives à dire, mais j'aimerais commencer par ça. Et pour Disclosure, c'est un excellent documentaire. Et là, le terme documentaire mérite d'avoir de tels films sous son parapluie, réalisé par des personnes concernées qui ont directement pris part à ces représentations. Ce sont des personnes qui, elles-mêmes, ont contribué à la représentation de la transidentité au cinéma et à la télé dans les médias. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis ça t'a... Regarder Disclosure, ça t'apporte un bagage incroyable. Si tu ne connais pas le sujet, ça t'apporte un énorme bagage d'un coup sur ce sujet-là. Et donc ça peut être très très efficace. Si tu as besoin de t'éduquer très rapidement sur le sujet, boum, tu regardes Disclosure 2 heures plus tard. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup de bagages. Donc c'est vraiment, vraiment cool à recommander pour ça.
Pour moi, la définition d'un documentaire, c'est un film qui a été écrit à l'avance, précisément, avec une narration, avec un propos, avec une démonstration. Et c'est exactement ce que fait Disclosure. Les personnes qui ont été interrogées, elles ont été interrogées parce qu'on le savait, ce qu'on voulait montrer. On savait ce que ces personnes apporteraient. Petite Fille, c'est un reportage. C'est un travail de journalisme pour montrer la situation d'une famille, pour montrer la progression de cette famille sur l'année que le tournage a duré. Mais c'est pas un... Il n'y a pas de propos, il n'y a pas de... On n'a pas, autrement que par ce qui est montré à l'écran, l'intention de la personne qui a réalisé. Et effectivement, Lipschitz, c'est un thème qu'il aime bien. À notre connaissance, c'est un homme cis gay. Peut-être que c'est un sujet qui le passionne et que c'est un allié qui est à quelques mois d'un coming out, on n'en sait rien. Mais en attendant, pour l'instant, il semble que ce soit juste une fascination. Et à ce titre, il semble qu'il montre indifféremment des choses qui servent et des choses qui desservent le propos, des choses qui mettent en valeur et des choses qui rendent vraiment mal à l'aise de regarder cette petite fille se déshabiller sans qu'il y ait autre chose qu'une fétichisation des corps trans. Ça ne sert pas un propos, ça ne sert pas la narration. On ne sait pas pourquoi on regarde cette petite fille. Dans le meilleur des cas, on partage un malaise. Et pour moi, dans les choses qui m'ont mise mal à l'aise, je suis très très sensible à la musique. Et pour comparer Disclosure à une bande-son qui a été composée exprès pour le film et qui est magnifique, qui apporte une cohérence au propos, à tout le projet, parce que c'est le même compositeur du début à la fin. J'ai plus son nom en tête, je suis désolée. Mais là, on sent que c'est une œuvre qui se tient. De l'autre côté, et c'est un choix qui se tient aussi pour des films de fiction, la musique de Petite Fille est composée de plein de morceaux qui viennent de plein d'endroits différents. En essayant de prêter une intention à la personne qui a choisi la musique, puisque la musique, elle n'est pas là par hasard. Donc, moi, j'ai cherché ce qu'était la musique parce qu'il y a certains morceaux qui m'intéressaient. Dans la première partie du film, la musique vient de films documentaires d'il y a 10 ou 20 ans, et plus particulièrement de films qui ont accompagné des scènes de naissance. Donc, pourquoi pas, puisqu'on parle d'une petite fille, donc c'est l'arrivée de la petite fille dans la famille, pourquoi pas. La deuxième partie du film, on entend quelqu'un qui chante, alors que la première partie est plutôt instrumentale, la deuxième, ce sont des voix qui chantent. Et ce sont non seulement exclusivement des voix féminines, ce sont non seulement exclusivement des voix masculines, mais ce sont des morceaux qui ont été écrits au XVIIe, XVIIIe pour les castrats, qui sont chantés par... Ah, le nom m'échappe. C'est un chanteur français, haute contre, qui est très talentueux, qui a une très très jolie voix. Mais soit c'est un impensé de la part de l'auteur, auquel cas c'est un peu désagréable, soit c'est fait exprès de la part de l'auteur et c'est très désagréable.
Encore pire, ouais.
Parce que voilà, l'association des femmes trans au castrat, montrer des femmes trans comme étant des hommes qui se griment ou des hommes qui se mutilent, c'est tout ce contre quoi on lutte. Ce sont ce genre de stéréotypes qui nous font beaucoup de mal.
Et si je peux poser une autre question, comment est-ce que vous expliquez que ce film il ait eu autant d'écho ? Enfin, moi, je sais par exemple que ma tante, elle m'en a parlé, que voilà, sur Arte, il a été beaucoup vu. Comment est-ce que vous envisagez voilà, qu'il puisse y avoir une telle réception de ce film-là, alors qu'on voit bien qu'il a quand même un certain nombre de limites.
Vas-y, Nilia.
Il y a une combinaison d'éléments. Le premier, c'est Sébastien. Je vais l'appeler par son prénom. Voilà. C'est Sébastien parce que voilà, il a une réputation et il a un nom qui fait que, du coup, forcément, il va pouvoir réunir une production et des producteurs. Et la production associée d'une grande chaîne de télé, donc Arte. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est que c'est un film qui est émouvant. Et du coup, puisqu'il est émouvant et doux à regarder, par doux, je veux dire en termes d'ambiance, il va forcément remuer des choses chez le public, le public qui n'est pas fait de personnes concernées. Et du coup, ce public de personnes non concernées va relayer et va émettre des avis très positifs sur ce film qui les a émus, qui les a accrochés et qui leur a permis de le temps d'une soirée de s'intéresser à un sujet que d'habitude qui d'habitude n'est pas apporté chez eux. Bon, il y en a peut-être d'autres des éléments, mais je pense à ces deux-là.
Ouais, j'ai constaté le succès quand ma famille a commencé à m'envoyer le film en disant ah, c'est trop bien, j'ai pensé à toi, etc. Et du coup, je l'ai regardé. J'ai mis plusieurs jours à me décider à le regarder, mais. Et je vais être honnête, j'ai pleuré devant le documentaire parce que le documentaire était émouvant. Le reportage.
Le reportage, oui.
Le film, l'œuvre. L'œuvre est émouvante. Il faut lui reconnaître ça. C'est bien montré, bien emballé. Une des raisons, je pense, pour lesquelles le public s'autorise à être ému par ce reportage, c'est l'âge de l'héroïne. Elle est très jeune. Elle est innocente. C'est pas un reportage sur une personne trans qui serait adolescente ou adulte à qui on peut déjà prêter des intentions, qu'elle soit d'appropriation des luttes féministes, de s'intégrer dans les espaces féminins. Tout ça, on ne peut pas le prêter à Sacha parce qu'elle est tellement jeune. Et pour moi, j'associe ça avec la façon dont je crois. C'est une des premières fois que, quand la lycéenne de Lille s'est suicidée au mois de décembre, c'est peut-être une des premières fois que le public s'est ému comme ça pour une fille trans. Le hashtag Justice pour Fouad a été dans les top trends de Twitter. Il y a eu des députés qui ont fait des lettres pour les ministres pour essayer de mettre en place des programmes contre la transphobie à l'école. C'est vraiment une première. Et pour moi, j'associe les deux mécanismes. C'est que c'était des personnes trans très jeunes à qui on ne peut pas prêter de mauvaises intentions.
Pauline, vas-y.
Oui, c'est... Moi, ce que je voyais, ça reprend un petit peu ce que Jen a dit, ce que je voyais comme mécanisme qui permet au grand public, donc les personnes qui ne sont pas forcément concernées, d'apprécier énormément le reportage Petite Fille. Donc, c'est une petite fille, comme tu disais, mais surtout, on l'entend quasiment pas. Et donc, pour moi, c'est pas un reportage sur une petite fille trans, c'est un reportage sur la famille autour d'une personne trans. Et à la très grande différence de l'autre, qui est un documentaire sur des personnes trans avec des personnes trans qui racontent leur vécu, là, on n'entend pas la personne trans quasiment. Enfin, si, de temps en temps, elle dit « oui, non, moi, j'aime bien être une fille ». Enfin, tu vois, deux, trois phrases, mais finalement, sinon, elle est silencieuse en permanence. Donc, c'est pas sa voix à elle qu'on écoute. C'est toutes les autres personnes autour. Et c'est très souvent ça dans des sujets qui sont pas très bien perçus par le public, comme là j'ai que par exemple le handicap, l'autisme en tête, mais on entend beaucoup les familles et le grand public a besoin d'entendre les personnes concernées, mais ne veut pas parce que c'est plus facile d'entendre les gens autour, qui sont souvent du coup des très mauvaises représentations de ce que c'est que l'autisme ou le handicap. Voilà, c'est ce que je vois comme différence. Et, enfin, voilà, pour moi, c'est exactement la même chose qu'avec les familles de personnes autistes.
En fait, l'héroïne, c'est la mère.
C'est ça.
Et la mère, elle est formidable. Hein. J'aurais aimé avoir cette mère-là.
Oh, oui, elle est très bien.
Elle est exemplaire. Mais c'est plus facile quand on présente à un public cis de demander à s'identifier à la mère parce que c'est forcément complètement positif. Imaginez tout le public qui regarde la mère, qui regarde la mère en se demandant est-ce que j'aurais été aussi bien. Et oui, évidemment, j'aurais été aussi bien que de demander à des personnes cis de s'identifier à des héroïnes trans. Et une des premières phrases qu'on entend quand on parle de transidentité, c'est genre je comprends pas ou c'est pas pour moi quoi. C'est
pire. Tu es tellement brave, je pourrais jamais faire ça.
Ça, c'est une phrase qu'on ressort à toutes les minorités, en fait. Hein, parce que les personnes handicapées, c'est exactement pareil.
Exactement.
Inspiration porn.
C'est exactement ça. Je ne suis pas ta leçon de vie. Pour revenir au... Parce que moi, j'ai pas vu Petite Fille, mais j'ai vu Disclosure. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi... bon, d'une part, j'étais par moment un peu paumée, parce que je connaissais pas du tout tous les films qui étaient mentionnés. Parce que bah, c'est états-unien, et que des fois, il y avait des vieux films que je connaissais pas, en fait, tout simplement. Mais j'ai beaucoup aimé, d'une part, le fait que... Bah, faut dire que ça a été fait par... produit, scénarisé, je sais plus, par Laverne Cox, qui est une super actrice trans noire aussi. Et donc, en fait, ils oublient absolument pas la dimension du racisme, qui est quelque chose qui m'a pas mal marqué. Notamment, il y a un moment, alors je sais plus quelle personne c'était, qui se trouvait être asiatique, qui parlait du fait, la réaction qu'elle a eue en faisant son coming out, où elle disait qu'en fait, on lui a demandé « Ah, mais comme telle personne de tel film !» Parce qu'en fait, la personne à qui elle faisait son coming out ne connaissait que ce film-là, qui avait une personne présentée comme trans-asiatique. Et en fait, cette personne dans le film, c'était un ou une tueuse, je sais plus, en série. Donc, plus tous les cas de blackface associés à la transidentité, parce que se déguiser en fille et se grimer en noir, ça fait toujours rire. Un peu moins maintenant, mais quoique.
C'est des Nous, fois, ça ne fait pas rire.
Mais... Malheureusement, je crois qu'il y a des personnes qui en sont encore là, mais j'avais trouvé ça vraiment vraiment intéressant que ça parle aussi, enfin ça n'oublie pas la dimension du racisme qui malheureusement est souvent va souvent de pair avec la transphobie. Et j'avais beaucoup aimé aussi la conclusion de Laverne Cox justement, qui était que bah comme Nilian l'expliquait, les représentations sont vraiment très importantes parce que pour beaucoup de personnes, c'est un peu les seules représentations qu'on a de la transidentité, mais que si c'est la représentation pour la représentation, sans que derrière ça change la vie des personnes trans, ça sert pas à grand chose quoi. Si derrière on fait juste de la représentation pour une question de wokeness ou d'éveil à la, je sais pas comment on pourrait présenter ça de façon un peu dégueu, d'éveil à la différence ou un truc comme ça, sans derrière vraiment agir pour les droits et les droits des personnes trans, bah c'est du vent, quoi.
J'ai envie de reconnaître ça à Petite Fille. Ça fournit un bon exemple aux personnes cis. Et si les personnes cis qui ont vu ce film ont un ou une enfant trans après ça, ça a placé la barre assez haut en termes de soutien de la part de la famille. Et à ce titre-là, si ça simplifie la vie d'une gamine trans dans le futur, et ben, ça aurait eu un effet positif.
Bon, je pense qu'on va se séparer ici. Merci beaucoup à toutes, surtout à nos invités. C'était très très cool de... faire cet épisode avec vous.
Merci à vous.
Merci de l'invitation.
Merci beaucoup de l'avoir accepté.
Merci d'être venue.
Sororité, Adèle, cool. Tout ça.
On remercie aussi Radio Moulin, qui est l'association qui héberge nos podcasts et qui nous a donné la chance de pouvoir créer ce podcast. Et vraiment merci à eux. Et on doit aussi faire un merci à Gabriel, qui tient les comptes Instagram Non-binary grown-upkin et représente trans, et qui nous a conseillé au début de la conception de l'épisode.
Et ouais. Donc voilà. N'hésitez pas à écouter du coup à la fois un podcast trans, bien sûr, et les épisodes précédents de Violette sur les Andes aussi, et tous les autres podcasts féministes et intersectionnels.